Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne, émission proposée par les équipes de Radio Patrimoine et du magazine Capital. Rendez-vous mensuel qui a pour but de décrypter l'économie avec nos invités présents en plateau. Il y aura notre grand témoin aussi et nos experts en fin d'émission comme d'habitude. Thibault Lamy m'accompagne pour cette émission. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, en pleine forme. Rédacteur placement pour le magazine Capital. Je suis ravie en tout cas d'animer cette émission avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut être anxiogène pour certaines personnes. Je parle également de la déclaration de revenus 2022. Alors, petit rappel, elle est ouverte en ligne depuis le 7 avril. Trois dates sont à retenir pour la déclaration en ligne. Le 24 mai pour les départements de 1 à 19, le 31 mai pour les départements de 20 à 54 et le 8 juin pour les départements du 55 au 974-976. Et pour la déclaration papier, en revanche, la date a été fixée au 19 mai. Donc c'est 39 millions de contribuables, Thibault, qui sont concernés. 11 millions de foyers fiscaux, pour eux c'est plutôt simple avec la déclaration automatique pré-remplie, on va en parler tout à l'heure. Pour d'autres c'est un petit peu moins simple, même si le formulaire est en ligne, des vérifications sont nécessaires. Alors justement, à quoi doit-on faire attention? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce qu'il faut remplir? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Est-ce qu'on peut encore baisser son impôt sur le revenu ou c'est trop tard? Et comment on peut optimiser notre situation fiscale pour nos revenus 2022? Beaucoup de questions avec nos invités, Thibault.
Oui, alors on a deux experts sur la question, de la déclaration de revenus et aussi de l'épargne, des revenus fonciers de manière plus générale. Donc on a Pierre-Emmanuel Sassonia qui est directeur associé chez RS.
Bonjour Thibault, bonjour Vénice.
Bonjour. Et on a Kurt Vural, qui est directeur commercial du cabinet de gestion de patrimoine Selectium.
Bonjour.
Et on retrouvera aussi tout à l'heure, évidemment, notre coup de cœur et coup de gueule de Pierre Sabatier, président fondateur du cabinet Prime View. Et en dernière partie d'émission, votre séquence préférée, la séquence « Ça vous concerne », durant laquelle nos experts répondront évidemment à nos questions, à vos questions. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne, spéciale déclaration de revenus 2022.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Et oui, le grand témoin avec nos deux invités présents aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions sur la déclaration de revenus 2022, Thibault.
Oui, alors on va commencer avec une première question qui est assez large. La déclaration de revenus aujourd'hui, à quelques exceptions près, si on n'est pas à l'aise du tout avec Internet ou si on n'a pas de connexion, c'est sur impots.gouv.fr. Il y a des informations et notamment des cases qui sont à vérifier peut-être un peu plus que d'autres. Peut-être commencer avec vous, Kurt Vural. Est-ce qu'il y a des petites cellules à aller chercher dans sa déclaration?
Il va y en avoir beaucoup, mais j'allais dire au moins au démarrage, la première partie de la déclaration est plus qu'importante puisque ça concerne les renseignements personnels. Donc si vous avez eu un changement d'état civil ou un changement de situation familiale sur l'année 2021, c'est là où il faut le noter puisqu'il va y avoir forcément un impact, notamment en nombre de parts fiscales, donc d'impôts à payer. Donc il faut être hyper vigilant et bien remplir ces cases-là et bien notifier encore une fois un changement intervenu sur l'année.
Ah oui, parce que c'est vrai que ça joue sur le quotient familial notamment. Donc on peut avoir des avantages fiscaux qui sont assez importants et si on ne précise pas, on peut passer à côté.
C'est ça, le nombre de parts. Vous avez un mariage, un PACS, vous passez de une à deux parts, la naissance d'un enfant. On peut penser aussi aux parents célibataires, si on met de l'autre côté en cas de divorce. Donc vous avez, si je prends l'exemple du parent célibataire ou parent isolé, c'est une demi-part supplémentaire. Même en garde alternée, il faut penser à ça pour les parents qui nous écoutent, sur une garde alternée, c'est un quart de part supplémentaire. Donc encore une fois, c'est pas négligeable puisque ça va venir en réduction de votre imposition. Donc tout ça, oui, encore une fois, il faut bien penser à le noter et à remplir sa déclaration.
D'accord. Et alors, côté, là, on parlait situation familiale, côté revenu, bon, il y a quand même une option qui est assez importante. Hein, si on parle de taxation des dividendes, des intérêts, il y a une case qu'il ne faut pas louper pour le coup. Là.
Alors, on parle de la case 2OP, effectivement. C'est, vous savez, depuis 2018, donc on a la flat tax, hein, le PFU, qui est par défaut sur toute la partie intérêts financiers. Donc vous avez cité dividendes effectivement d'actions, mais on peut parler de l'assurance vie, des intérêts de livret bancaire par exemple. Et cette flat tax, donc ces 30% viennent et en tout cas sont appliqués par défaut. Donc les 30% c'est quoi? C'est 17,2 de prélèvements sociaux obligatoires et un impôt de 12,8. Sauf que vous avez encore le choix de choisir le barème progressif. Donc il faut regarder vraiment en fonction de votre situation. Vous savez par tranche marginale d'imposition, c'est comme ça qu'on est imposé en France au barème progressif. Donc pour ceux qui sont sur des petites tranches marginales, à 0 voire à 11%, vous rajoutez les 17,2 en faisant juste une addition, vous comprenez que c'est plus intéressant que les 30%. Et cette case, elle est absolument à cocher. Et je vais même aller plus loin, enfin moi c'est ce que je conseille à la plupart de nos clients, c'est de tester. En fait, vous avez la chance d'avoir un simulateur aujourd'hui sur le site impots.gouv et de regarder ce qui va être le plus intéressant pour vous, puisque quand vous cochez la case, ça concerne tous les revenus financiers. Mmh. Donc les dividendes, il faut regarder, vous avez d'abord un abattement, est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir comme ça, les intérêts de livret bancaire comme on parlait. Donc si vous faites ce choix-là, c'est pour l'intégralité. Donc faites des tests. Faites une simulation à chaque fois en cochant la case ou en ne la cochant pas et vous verrez ce qui est le plus intéressant pour vous.
Mmh. Et on peut même aller plus loin, d'ailleurs, Pierre-Emmanuel Sassonia, parce que finalement, en faisant même sa déclaration de revenus, en la signant, finalement, on a le montant de l'impôt qui apparaît et puis on est totalement libre de la corriger jusqu'aux dates limites que Bérénice a citées.
Oui, tout à fait. Le point, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui sont pré-remplies, qui sont parfois remontées directement des gestionnaires d'épargne. Et donc, il faut évidemment bien vérifier ce qui a été remonté automatiquement pour s'assurer que les informations ont été correctement transmises et qu'il y a effectivement peut-être encore des points d'ajustement pour réduire encore un peu la facture.
Oui, il peut y avoir des erreurs en fait. Il ne faut pas faire confiance. C'est pas parce que c'est pré-rempli que c'est forcément juste.
Et de toute façon, enfin, on sait aussi que les gestionnaires ont négocié en 2019, par exemple, avec la loi Pacte. La capacité à pas remonter le détail absolu de toutes les opérations qui ont été réalisées. Je prends l'exemple par exemple du PER. Sur un PER, on peut faire une déduction sur le revenu global ou une déduction sur le revenu catégoriel. Aujourd'hui, les gestionnaires de PER ne remontent qu'une seule information, une déduction du revenu global, et c'est ensuite au contribuable de décider s'il veut déduire de son revenu catégoriel, donc pour les professions libérales, pour les gérants d'entreprise, ou sur le revenu net global. Dans ce cas-là, c'est le cas de l'ancien PERP versus l'ancien MADLIN typiquement.
Là, on parlait justement d'erreurs qui étaient possibles. On en a une belle, entre guillemets, avec un million d'agents de la fonction publique qui ont été concernés par une erreur dans leur déclaration pré-remplie qui concernait les heures supplémentaires. Peut-être que Kurt Voral, on peut rappeler assez rapidement le concept des heures supplémentaires exonérées et comment ça fonctionne dans le cadre de la déclaration.
Alors, vous avez un plafond annuel qui est de 5000 euros et effectivement, jusqu'à 5000 euros d'heures supplémentaires, vous êtes donc exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, la vérification, effectivement, elle se fait obligatoirement. Alors, on va chercher sur l'attestation annuelle que peut vous fournir votre employeur en fin d'année. Donc, il est normalement censé marquer le nombre d'heures et effectivement avoir fait le calcul de ce revenu net imposable à déclarer en les prenant en compte, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, il faut le regarder. Et si vous constatez une erreur, vous le corrigez directement sur votre déclaration. Donc, en diminuant le revenu imposable de la part des heures supplémentaires qui n'avaient pas été comptées et en remplissant la case juste en dessous, vous ne m'en voudrez pas si je ne me rappelle absolument plus du numéro, mais la case qui est juste en dessous des revenus, exactement, où vous mettez le montant des heures sup exonérées. Donc, bien entendu, oui, à vérifier, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs, et j'ai même lu dans la presse récemment que c'était, on pouvait presque parler de millions sur les dernières années qui avaient été oubliés ou en tout cas non déclarés.
Bon, bah alors là, c'est vrai que le souci dans tout ça avec les heures supplémentaires, c'est que ça fait bondir la facture. Alors, le fisc s'est repris très rapidement et normalement a contacté tous les fonctionnaires concernés. Mais bon, ça aurait pu faire bondir leur facture fiscale. Et il y a une chose aussi qui peut faire bondir le montant de l'impôt, bah c'est quand on part à la retraite, par exemple, et qu'on touche un revenu exceptionnel, une prime de départ. Pierre-Emmanuel Sassonia, vous parliez aussi du PER, du plan d'épargne retraite. Si on le débloque d'un coup en capital, bah, ça peut faire mal. Est-ce qu'au moment de la déclaration, on peut encore lisser cet impôt? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ça?
Historiquement, il y avait deux mécanismes qui étaient possibles. C'était le mécanisme de l'étalement et le mécanisme du quotient. Alors l'étalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus possible depuis 2019. 2019, ça devait être la dernière année d'option possible pour l'étalement. Mais on a encore le mécanisme du quotient qui permet d'éviter le saut de tranche. Comme disait Kurt tout à l'heure, on est sur des tranches marginales d'imposition, donc des revenus qui sont imposés de plus en plus fortement. Et donc, plus on rajoute de revenus, plus ces revenus sont fortement imposés. Et donc, mes revenus, mes derniers revenus, par exemple, mes revenus de patrimoine, si j'essaie de débloquer mon PER, ça va faire bondir mon niveau de revenus. Et donc, ces derniers revenus que je rajoute sont taxés au taux marginal d'imposition, 11, 30, 41, 45%. Le mécanisme du quotient permet de réduire la facture en disant simplement qu'on va éviter l'effet très négatif de cet effet marginal. En fait, on va diviser par 4 le montant racheté. On va le rajouter aux revenus. On va voir ce que ça génère en termes de facture fiscale. Et cette facture va être multipliée par 4. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi mes explications, mais grosso modo, ça permet d'éviter d'aller taper dans les tranches les plus élevées et donc de rester dans des niveaux d'imposition cohérents par rapport à la situation du contribuable. Et donc, le mécanisme du quotient, vous le disiez Thibault, c'est très intéressant, par exemple, pour les primes de départ à la retraite, pour les rachats de PER. Quand on rachète 100% de son PER, c'est un revenu qui, par nature, ne reviendra pas chaque année. C'est un revenu exceptionnel. Et donc, on va pouvoir demander l'application de ce quotient qui permet d'éviter une imposition très importante qui sera un peu confiscatoire.
Oui, on rappelle d'ailleurs que ça porte le nom du quotient, c'est la même chose finalement que le quotient familial, hein. C'est ouais, le calcul c'est que vous avez développé,
c'est exactement le même.
Sinon, on avait une autre question. Pour un contribuable qui n'a que des revenus salariés, c'est assez simple. Parce que bon, normalement, tout est pré-rempli par l'employeur ou autre. Pour un propriétaire bailleur, Kurt Voralt, ça se passe comment? Normalement, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, on entend les propriétaires qui sont un peu dans le dur au moment de la déclaration.
Bah, de manière simple, hein, même si le report est activé, ça ne reporte que l'adresse de votre bien et le nombre de locaux que vous possédez, donc ce qui est quasiment rien pour le simplifier. Et en même temps, c'est normal puisque votre déclaration, en tout cas les chiffres que vous avez à remplir évoluent chaque année. Hein, oui. On remet, alors si on parle de formulaire, là c'est la 2044 qu'il faut remplir avec les frais de gestion de votre gestionnaire, le cas échéant, des provisions pour charges, bref, encore une fois, des sommes qui évoluent chaque année. Donc il faut le remplir, effectivement, chaque année, en reprenant, et c'est là où c'est intéressant de faire appel à un gestionnaire, parce que normalement, il vous fait une aide à la déclaration, il vous envoie les états servants cette période de l'année, pour pouvoir vous faciliter cette démarche et la déclaration. Et pour aller plus loin, en fonction de vos investissements, donc sur la 2044, vous avez aussi la 2044 EB sur l'engagement de location, notamment pour ceux qui investissent via le dispositif Pinel, qui est à remplir la première année. Donc ça, il faut faire attention, c'est l'engagement de location sur la période que vous aurez préalablement déterminée. Il y a encore la 2044 spéciale pour ceux qui bénéficient notamment d'un cellier intermédiaire ou des monuments historiques. Donc tout ça est à remplir, et si on veut pousser le vice encore, si vous faites du meublé, oui, vous avez la 2042 Pro. Si vous êtes au réel, il faut faire au préalable la 2031 avec votre expert comptable. Donc j'allais dire, faites-vous aider. Ce sera forcément le plus simple pour ne pas faire d'erreur. Mais tout ça doit être rempli manuellement. Rien de pré-rempli encore une fois, puisque votre situation évolue forcément d'année en année.
Oui, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de se. Enfin, c'est plus simple quand on se fait aider. C'est beaucoup mieux de faire appel à un.
Non, mais d'éviter les erreurs, je pense.
Un expert comptable.
Vous parliez de. Donc, on parlait de revenus fonciers. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a, comme pour la déclaration des dividendes et intérêts, est-ce qu'il y a une petite case à cocher, un petit conseil à donner? Est-ce qu'il y a une option d'imposition qu'on peut encore choisir ou
Alors vous, si on est sur du pur foncier, hein, c'est soit le réel ou le micro-foncier, comme il existe aussi sur le BIC et le micro-BIC sur les loueurs en meublé, ça se regarde, encore une fois, j'allais dire, ça Il n'y a pas de cas prédéterminé, puisque vous avez tout simplement un abattement sur vos revenus, et ensuite vous êtes imposé, donc on prend juste les loyers bruts si vous faites un régime micro, et ensuite barème progressif. Si vous êtes sur le réel, forcément, il y a beaucoup de choses à déduire. Hein. Je parlais notamment des frais de gestion, les intérêts d'emprunt, votre assurance, donc ça se regarde. En règle générale, moi, vraiment par expérience, hein, 95%, voire même un peu plus pourcent des clients que je rencontre, on va au réel. L'option micro est jamais ou est très rarement intéressante pour le contribuable.
D'accord. Et vous avez parlé assez brièvement du Pinel. Depuis l'année dernière, je crois qu'il est possible de reconduire son engagement de location. Ça, c'est peut-être une étape à ne pas louper dans sa déclaration, parce que sinon...
Exactement.
On a le risque de perdre l'avantage.
Exactement. En fait, c'est, je parlais de la 2044 EB, donc c'est le formulaire que vous remplissez pour cet engagement de location. Donc le Pinel, c'est 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Hein. C'est une option que vous pouvez choisir dès le démarrage. Donc pourquoi l'an dernier sur les revenus 2020? Parce que c'est 2014, donc les 6 premières années. Donc ceux qui avaient choisi 6 ans pouvaient, encore une fois, proroger de 3 ans. En fait, vous refaites une 2044 EB à ce moment-là où il y a une petite case où vous vous engagez encore une fois à louer sous les mêmes conditions sur les 3 années qui viennent. Après la question, si on lit strictement la loi, on dit qu'il est interdit et par anticipation et de manière rétroactive de proroger. Donc ça veut dire que dans l'absolu, si on a oublié de cocher cette case au moment de la prorogation, c'est perdu. Après, on va dire qu'on va jouer aussi sur le fait d'avoir la possibilité de corriger sa déclaration pendant 3 années. Donc voilà, on a toute l'année. Quand j'allais dire, voilà, vous faites votre déclaration, vous pouvez effectivement cocher cette case. Il faut savoir que le service réouvre à nouveau entre septembre et décembre de l'année pour rectifier. Vous avez encore cette partie-là. Si décembre, vous ne l'avez pas fait, normalement, vous avez 3 ans pour déposer une réclamation au service des impôts. Jamais été confronté à ça. Je ne peux pas vous dire comment les impôts réagissent si c'était le cas en cas d'oubli, mais normalement, encore une fois, vous avez 3 ans pour rectifier vos déclarations. Donc, en tout cas, essayez de ne pas oublier. C'est mieux.
On a un droit à l'erreur.
Oui, le fameux droit à l'erreur, le oups des impôts, ouais, effectivement.
Bon, en tout cas, on le voit sur les revenus fonciers comme sur l'épargne salariale ou retraite, c'est pas forcément toujours très simple. J'imagine que vous avez des clients qui font appel à vous à ce moment de l'année justement pour obtenir du conseil. De manière globale, les Français peuvent s'adresser à qui pour se faire aider au moment de la déclaration de revenus, à part le fisc?
Alors, j'allais dire le fisc en premier, mais effectivement, hein, vous avez des agents de la fonction publique, du service des finances qui sont là pour vous aider. Vous avez le droit de prendre rendez-vous avec eux si vous avez un problème sur la déclaration.
Ensuite, il faut aussi prendre juste un petit peu en avance parce que souvent, c'est assez complet, hein, les rendez-vous.
Oui, je précise que c'est possible.
Oui, bien sûr. Non,
après, même au téléphone, je pense que ça peut effectivement prendre un petit peu de temps. Donc, il faut mieux effectivement
le prévoir.
Vous avez l'ordre des experts comptables qui fait une opération au mois de mai chaque année sur deux ou trois jours avec une hotline pour les contribuables.
On va en parler justement juste après.
Bien.
On a un reportage.
et les cabinets, enfin, cabinet de gestion de patrimoine. Voilà, je prêche pour ma paroisse, mais effectivement, nous, on suit nos clients chaque année. On a même des clients qui nous consultent uniquement pour ça. Donc, vous pouvez faire appel, effectivement, à plusieurs personnes, à plusieurs métiers pour vous aider dans votre déclaration d'impôt.
Et là, juste vous parler de vos clients, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se réveillent. Enfin, moi, j'en fais partie, par exemple, juste avant la déclaration ou au moment, en fait, de la déclaration de revenus, non? La plupart, c'est
début,
ça.
Début. Enfin, c'est-à-dire que là, depuis le week-end dernier, on croule sous les demandes. Donc ceux-là, ce sont ceux qui finalement veulent le faire le plus rapidement possible. Et on sait que ça, c'est notre première vague. Et notre dernière vague interviendra la semaine du... Vous avez redonné les dates, hein, la première semaine de juin, où ça, ce sera la dernière vague de ceux qui vont se réveiller effectivement au dernier moment en disant
«
J'ai besoin absolument d'un coup de main. il faut qu'on le fasse avant le 8 juin minuit. » Donc il faut quand même essayer de le prévoir. Alors après, avant l'ouverture, on est toujours surpris. Nous, c'est ce qu'on conseille à tout le monde. Hein. Tant que le service n'est pas ouvert, vous connaissez pas les changements, il y a souvent des changements dans le fonctionnement d'impôt.gouv, donc ça sert à rien, si ce n'est rassembler ces documents, qui seront toujours les mêmes, et les besoins de documents, on parlait des propriétaires bailleurs, donc tous les documents nécessaires au remplissage de la 2044, mais oui, effectivement, tant que le service n'est pas ouvert, on sait pas sur quoi on va tomber, il peut y avoir quelques surprises, quelques changements, donc il faut mieux le faire au début de la déclaration pour être tranquille, éviter aussi, d'ailleurs, je pensais à ça, on a eu des prorogations de déclarations d'impôts puisque le site des impôts avait sauté sur les fins de période de déclaration parce qu'il y avait trop de connexions. Donc on a eu aussi des périodes où on pouvait déclarer un petit peu plus tard. Donc voilà, commencez le plus tôt possible. Je pense que effectivement c'est le mieux. Débarrassez-vous de ça et vous profiterez du mois de mai, du mois de juin, du soleil. Ce sera beaucoup plus sympa.
C'est ce que vous conseillez à vos clients. Est-ce que vous conseillez aussi de faire attention peut-être toute l'année, d'essayer de stocker tous les documents parce que j'imagine pour les propriétaires bailleurs par exemple, voilà, c'est le dernier moment. Enfin, absolument envoyer tous les documents. Enfin, vous envoyez les documents, peut-être stocker sur un fichier sur leur ordinateur.
Exactement. On prépare. Alors encore une fois, pour notre cas, nous on prépare une liste en fonction de ce que l'on doit déclarer et des documents obligatoires, même dans l'aide à la déclaration. Hein, c'est ce qu'on leur demande de nous fournir au préalable, avant même un rendez-vous, pour pouvoir avoir tous ces documents, parce que ça peut effectivement ça peut être énormément de documents, et oui, il faut mieux les rassembler, puisque n'oublions pas encore une fois qu'on fait une déclaration là en 2022, mais sur les revenus de 2021. Donc vous avez notamment maximum d'attestations qui sont délivrées au mois de décembre 2021. Donc celle-là, gardez-les, vous savez que vous allez en avoir besoin 4 ou 5 mois après, donc gardez-les. On pensait, je parlais des intérêts d'emprunt, si on part 2044, l'attestation annuelle de la banque pour les assurances, pour les intérêts d'emprunt, on parlait des heures sup, l'attestation annuelle, on vous la délivre normalement fin décembre, en même temps que votre dernière fiche de paie, donc tous les documents de fin d'année qui vont vous servir pour la déclaration 4, 5 ou 6 mois plus tard, il faut mieux les mettre de côté, pour pas les chercher après. Ouais.
Faut tout garder, faut classer les documents, c'est important. On parlait tout à l'heure de l'ordre des experts comptables, qui organise l'opération Allo Impôts partout en France du 19 au 25 mai. Thibaut, vous avez interviewé son président, Lionel Canesi. On regarde tout de suite votre reportage.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Lionel Canesi, vous reconduisez pour la 13e édition l'opération Allo Impôts. Quel est son objectif ?
L'objectif, c'est une opération citoyenne pour les experts comptables. C'est d'accompagner les contribuables qui ont des difficultés à remplir leur déclaration d'impôt. Si vous voulez quelques chiffres rapidement, l'an dernier, c'est 20 000 appels téléphoniques que nous avons reçus de contribuables, c'est 10 000 personnes reçues physiquement et c'est 30 000 vues sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les Français dans ce moment compliqué qu'est la déclaration d'impôt sur le revenu.
Quelle est la plus-value d'un expert comptable au moment de la déclaration de revenus ?
Expert comptable, il a une vision globale de la situation du dirigeant ou la situation du contribuable. Donc ça permet de faire le point. C'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de remplir les imprimés, qui connaît les différentes déductions, ce qui est imposable, ce qui n'est pas imposable, ce qui est déductible. Donc c'est vraiment de ne rien oublier, de faire le point sur la situation et puis aussi d'avoir un conseil sur le montant des impôts qu'on va payer et puis la façon dont on peut aussi optimiser son impôt pour les années futures. Je crois quoi. C'est important d'être accompagné par un expert comptable. Comptable, ça coûte pas. Un expert comptable, ça rapporte.
La déclaration de revenus 2022 apporte-t-elle des nouveautés ?
Alors cette année, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, très peu de nouveautés, ce qui est une bonne chose, parce que plus il y a de nouveautés, plus c'est complexe. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un rehaussement du seuil du barème kilométrique, on le voit avec la crise énergétique, donc plus 10%. On a la prime inflation de 100 euros qui est exonérée. On a aussi la prime PEPA, la fameuse prime Macron qui est exonérée. Et puis il y a aussi quelque chose qui a été reconduit un petit peu différemment, mais qui existe toujours, c'est l'exonération de l'indemnité que l'on touche quand on a été en télétravail.
Est-ce que c'est plus compliqué cette année de déclarer ses revenus avec la déduction des frais liés au télétravail ?
Il y a plusieurs choses déjà. Sur la prime télétravail, déjà, c'est est-ce qu'il faut que je la déclare ou pas ? Donc si je la déclare, elle est non imposable. Par contre, je ne peux pas déduire les frais qui sont liés au télétravail. Donc le premier réflexe qu'on a sur déclaration, déjà, c'est abattement de 10% ou frais réels, soit forfait, frais de 10%. En fait, il faut vraiment regarder ça, parce que d'un côté, si je gagne 3 000 euros par mois, j'ai droit à 300 euros d'abattement. Est-ce que j'ai dépensé plus de 300 euros en frais réels pour aller travailler ? Quand je fais du télétravail, je dépense moins, il n'y a pas de kilomètre puisque je suis à mon domicile et j'ai droit à 2,50 euros par jour. Donc il faut vraiment faire cette distinction. C'est une des particularités de notre déclaration d'impôt sur le revenu. C'est aussi une des complexités de ne pas louper parce qu'on peut perdre 200-300 euros d'impôt parce qu'on n'a pas bien fait ce calcul.
Quels sont les pièges à éviter dans la déclaration de revenus plus généralement ?
Premier piège, frais réels ou abattement. Deuxième piège, c'est le rattachement des enfants. En fait, le calcul, c'est soit quand les enfants ont plus de 18 ans, qu'ils sont encore étudiants et qu'ils ont moins de 25 ans, soit je les rattache et j'ai une demi-part, soit en fait ils font leur déclaration et je peux déduire une pension que je leur verse et pour eux, la pension est imposable. Donc il faut faire le calcul entre les deux. Il ne faut pas oublier aussi quand on a des enfants qu'il y a une petite réduction. Quand on a des enfants au primaire, quand on a des enfants au collège et quand on a des enfants au lycée. Souvent, les contribuables oublient. Or, ce n'est pas des grosses sommes, hein, c'est entre 50 et 180 euros, mais c'est déjà ça. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Après, il y a la problématique, l'année du mariage ou l'année du divorce, la façon dont on fait la déclaration. Donc voilà, il y a quelques pièges assez simples à mettre en œuvre pour optimiser son impôt sur le revenu et il ne faut pas les oublier.
Est-ce que la déclaration de revenus, ce n'est surtout pas le moment de réfléchir à ce qu'on va faire pour limiter son impôt sur l'année en cours et donc à déclarer l'année suivante?
La déclaration de revenus, c'est évidemment le moment de se poser pour préparer l'année à venir. Parler avec son expert comptable aussi de ce qu'on va faire, de regarder comment on va avoir son impôt, d'optimiser certaines choses, d'avoir une vraie discussion, parce que c'est le moment de faire le point. Il faut faire aussi très attention, parce qu'on peut avoir des aléas de revenus, une hausse de revenus ou une baisse de revenus, donc il faut penser à ajuster son prélèvement à la source, parce que le prélèvement à la source est calculé sur le revenu de l'année d'avant. Donc si on veut éviter de payer des acomptes d'impôts trop élevés, c'est le moment où il faut faire attention à ça, donc optimiser aussi son prélèvement à la source par rapport à ses revenus estimés. Donc voilà, c'est le moment. Alors on est dans une année présidentielle, il va sûrement y avoir des nouveautés fiscales aussi, donc il faut peut-être aussi un petit peu temporiser et d'attendre d'avoir les nouveautés avant de prendre certaines options.
Un expert comptable, ça coûte pas, ça rapporte. Les mots du président que vous avez interviewé, Thibault. Vous êtes d'accord avec ça?
Clairement, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, de toute façon,
si vous voulez
optimiser, oui. Alors déjà, ça peut passer effectivement en déduction et ça permet de, si ce n'est de ne pas faire d'erreur, d'optimiser et de gagner de l'impôt à payer en moins. Donc oui, c'est pas négligeable. Je pense qu'encore une fois, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, faites-vous aider, il y aura forcément un gain derrière tout ça.
20 000 coups de téléphone, c'est ce que disait Lionel Canizi, le président là, de l'Ordre des experts comptables, c'est énorme.
Oui, et surtout, c'est trois jours, c'est deux jours ou trois jours, excusez-moi.
Il y a cinq dates, je crois, du 19 au 25 mai. Alors, c'est pas tous les jours, parce qu'il y a un week-end dans l'intervalle.
D'accord, ouais, 20 000, c'est énorme. Et je pense que ces 20 000, ça doit être le nombre de personnes qu'ils doivent prendre au téléphone. Il doit y en avoir aussi beaucoup derrière qui doivent attendre, justement, pour avoir un maximum de conseils.
Ouais. Thibault, vous aviez peut-être une question donc, sur l'optimisation.
Bah oui, sur l'optimisation, parce qu'on a bien compris. Bon, c'est vrai, il y a des choses à faire quand même au moment de la déclaration de revenus pour abaisser la note. Mais il y a surtout des choses à faire en prévision de l'année en cours. Hein, parce qu'on rappelle que quand on déclare ses revenus, c'est sur l'année qui est déjà écoulée. Donc logiquement, il n'y a plus grand-chose à faire. Côté épargne-retraite, est-ce qu'il y a des techniques à mettre en place particulières?
Oui, alors est-ce qu'on peut parler d'épargne salariale juste avant de parler d'épargne retraite?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Parce qu'en fait, la période, c'est la période de versement dans les entreprises, de l'intéressement et de la participation. Vous savez, ces primes de performance, ces primes de partage du profit, ces primes de participation au résultat, primes qui sont versées en fonction des résultats de l'entreprise ou des performances qui ont été constatées. Ces primes, si vous les percevez directement en cash, elles sont imposées. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, elles vont être imposées sur les tranches marginales d'imposition. Donc, ça peut générer une facture un petit peu salée. Alors que si vous décidez de les verser sur un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne retraite, ces primes seront exonérées d'impôts à l'entrée, mais aussi à la sortie.
Au bout d'un certain temps ou...
Alors, elles sont bloquées sur un plan d'épargne entreprise pendant 5 ans et sur un plan d'épargne retraite jusqu'à la retraite. On parle souvent dans l'épargne retraite d'un report d'imposition. Hein, je déduis à l'entrée pour être taxé en sortie. Là, on ne parle pas du tout de report d'imposition, on parle d'exonération totale.
Total.
Donc, intéressement et participation. Il faut vraiment réfléchir avant de choisir son option. Hein. Votre teneur de compte va vous envoyer un courrier pour choisir votre option retenue. Si je perçois, je suis taxé. Si je place, je suis exonéré d'impôt. On parlait de 5 ans de placement. N'oubliez pas qu'il y a aussi plein de cas de déblocage anticipé, l'acquisition de la résidence principale,
le mariage,
l'arrivée d'un troisième enfant. Donc, pensez vraiment aussi à optimiser en amont. La déclaration de revenus, c'est quasiment trop tard parce qu'une partie des options a déjà été faite. Pensez en amont au moment de la perception des revenus. à l'option la plus favorable.
Donc si c'est l'année du mariage ou de l'achat de la résidence principale, on peut débloquer donc, sans être imposé cette somme. Comment faire aussi pour essayer d'optimiser? Bon, là, est-ce que c'est trop tard déjà? Là, il n'y a plus rien à faire pour cette déclaration-là.
Terminé.
Mince. Zut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'année prochaine, par exemple?
Il y a peut-être quand même quelques petits paramètres qu'on peut encore ajuster. Typiquement, j'ai fait de l'épargne retraite et mon conjoint aussi, ou mon partenaire de PAX. Vous savez qu'il y a une option pour la mutualisation des plafonds. Par exemple, mon conjoint a beaucoup de plafonds et moi, j'en ai plus. C'est moi qui ai fait un versement.
On rappelle peut-être, Pierre-Emmanuel Sassonia, le principe du plafond d'épargne retraite.
Le plafond d'épargne retraite, c'est une espèce de droit à défiscaliser. Chaque année, tous les contribuables ont droit à un plafond qui est égal à 10% de leur revenu professionnel, moins, grosso modo, ce qu'ils ont consommé au sein de leur entreprise sous forme de cotisations de retraite supplémentaires, d'abondements sur un plan d'épargne retraite d'entreprise, etc., etc. Donc, chacun a un droit à défiscaliser chaque année pour préparer sa retraite. Et on a en fait un report sur 4 ans, l'année en cours plus les 3 années précédentes s'ils n'ont pas été consommés. J'ai ce droit-là et mon conjoint ou mon partenaire de PACS l'a également. Et en fait, la mutualisation des plafonds, c'est une façon de mettre en commun mes plafonds avec ceux de mon conjoint ou de mon partenaire de PACS et de décider qui va l'utiliser pour préparer sa retraite. Le cas d'espèce, c'est je suis dirigeant d'entreprise, profession libérale, cadre, je gagne bien ma vie, donc je cotise pour ma retraite. En revanche, mon conjoint ou partenaire a décidé de faire une pause dans sa carrière et donc a des revenus beaucoup plus faibles et donc cotise moins pour sa retraite. Le cas intéressant, c'est de mettre à disposition de mon conjoint mes propres plafonds pour que mon conjoint ou partenaire puisse préparer une retraite personnelle. Et donc, cette case-là qu'on coche en ce moment, c'est la case 6QR, c'est une belle option pour de solidarité, si vous voulez, entre les conjoints et les partenaires de PACS. Et c'est quelque chose qu'on peut encore choisir aujourd'hui et qui permet d'aller chercher une efficacité qui n'est peut-être plus possible de façon personnelle.
Donc, la petite chose à faire en ce moment. Pour l'année prochaine, du coup, comment peut-on optimiser? Qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer de réduire un petit peu, parce que évidemment, on en paye toujours des impôts, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, du coup, ces impôts sur le revenu?
On peut peut-être aussi choisir les produits d'épargne qui sont les plus vertueux d'un point de vue fiscal. Je parlais du plan d'épargne entreprise, je parlais du plan d'épargne retraite. Effectivement, c'est des plans qui nous permettent d'opérer une planification financière et fiscale. En gros, c'est une façon de dire, j'ai pas besoin de mon revenu tout de suite, j'en aurai besoin plus tard. Dans ce cas-là, je vais réduire ma facture tout de suite, peut-être dans une période où je suis fortement fiscalisé parce que je suis en activité, et je vais choisir de percevoir ces revenus plus tard, quand je serai à la retraite. A priori, mes revenus vont baisser quand je serai à la retraite, donc j'aurai une facture fiscale qui sera plus faible. Et donc, ce report d'imposition se double aussi d'une capacité à baisser globalement la facture globale. On peut parler aussi d'une stratégie qui plaît souvent aux parents, c'est la possibilité de verser sur un PER pour leurs enfants rattachés au foyer fiscal. Ça, c'est aussi quelque chose qui est peu utilisé aujourd'hui, mais qui permet aux parents de bénéficier d'un avantage fiscal parce que leurs enfants sont rattachés à leur foyer fiscal. Leurs enfants ont droit, comme tous les membres d'un foyer fiscal, à un plafond épargne retraite, ce dont on parlait à l'instant, et ça leur permet donc de réduire leur facture d'impôt au niveau du foyer et en même temps de préparer l'acquisition de la résidence principale pour leurs enfants dans le futur. Donc c'est aussi une jolie façon de transmettre à ses enfants et de préparer leur avenir.
Il y a la réduction d'impôt et la déduction d'impôt. C'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Là, peut-être courte, je vous laisse préciser la différence.
Mécanisme différent, effectivement, quand on parle d'épargne retraite, c'est de la déduction. Donc les versements dans la limite du plafond sont déduits du revenu global. Donc on reprend le barème progressif, mais forcément si votre revenu global est moins important, vous payez moins d'impôts. Et la réduction, on va la retrouver notamment sur le dispositif Pinel, on en parlait tout à l'heure, sur de l'investissement locatif, où là c'est une partie du prix de revient, en l'occurrence 2%, si on parle du dispositif Pinel, donc c'est 2% par an les 9 premières années, qui viennent directement en réduction du montant de l'impôt à payer.
Donc le montant qui est tout en bas
exactement.
De la déclaration.
Exactement.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, les dons que l'on fait aux associations, par exemple. Ça aussi, on a une... Alors c'est réduction ou déduction d'impôt, là?
Déduction.
Déduction.
Toujours. Oui.
Et c'est... Alors c'est pas tout ce qu'on verse.
Réduction.
Réduction, voire crédit d'impôt.
Ouais.
Hein, on peut même avoir un crédit d'impôt, c'est-à-dire avoir un remboursement, même si on n'a pas, un impôt à payer. On peut avoir un crédit d'impôt dans certains cas. Alors, c'est plafonné. Il y a deux types d'associations. Il y a les associations reconnues d'utilité publique avec un barème qui est encore plus avantageux. Je crois que c'est 75% de réduction. Et les autres associations, on est à 66%, avec, si je ne dis pas de bêtises, un montant global qu'on peut verser qui est égal à un quart de la rémunération.
Donc c'est-à-dire que si je verse 100 euros à une association, j'ai 66% de réduction d'impôt.
Et donc le coût
d'impôt.
Net, c'est 34 euros, donc c'est une belle façon aussi d'utiliser son impôt.
Et il y a aussi alors les services à la personne ou les c'est quoi alors, c'est des réductions, des déductions d'impôts si par exemple on emploie une femme de ménage, comment ça se passe? Ça aussi, il faut le remplir en plus,
ouais,
j'imagine.
Et donc là, c'est une réduction d'impôt qui est plafonnée. Court, c'est plus votre domaine d'expertise. On est sur 12 000 euros maximum de déclaration, avec une majoration possible en fonction du nombre d'enfants qu'on a au sein du foyer fiscal.
Et ça, c'est à nous de le remplir aussi.
Exactement.
Faut pas oublier.
Exactement. Et c'est 50% sur la partie. Et ça fonctionne aussi en crédit d'impôt, d'ailleurs. Donc, puisqu'on a dit déduction et réduction, et la troisième partie, c'est crédit d'impôt, donc c'est une réduction d'impôt, et si du coup vous avez réduit totalement le montant de votre imposition, vous avez la différence qui vous est remboursée. Donc là, on passe en crédit d'impôt, et c'est le cas pour les services à la personne et services à domicile ou garde à domicile, je pense notamment pour les enfants aussi.
Oui, les enfants, faut y penser aussi.
On a parlé épargne salariale, on a parlé épargne retraite, on n'a pas parlé revenus fonciers. On revient sur les revenus fonciers parce que bon, bah, pour les Français, quand même, c'est important. On a beaucoup de propriétaires en France et de propriétaires bailleurs. Est-ce qu'on peut optimiser aussi ces revenus locatifs?
Alors oui, on peut les optimiser. Quand je dis oui, on peut les optimiser, il faut presque passer de revenus fonciers justement à loueur en meublé. Pourquoi? Parce que revenus fonciers, le seul impact finalement, ça va être quoi? Ça va être les travaux. Vous avez fait des travaux, donc vous avez plus de charges. Vous diminuez finalement les revenus fonciers. Donc si vous avez des revenus fonciers moins importants, votre imposition est moins importante. Mais ce que font aujourd'hui beaucoup de personnes et beaucoup de nos clients notamment, c'est à un moment donné, quand ils génèrent beaucoup de revenus fonciers, c'est de basculer en meublé, puisque l'avantage du meublé, c'est qu'avec l'amortissement du bien immobilier, vous arrivez finalement à vous générer pendant de nombreuses années des revenus non fiscalisés. En fait, c'est un amortissement virtuel, c'est une comptabilité. C'est pour ça que d'ailleurs il faut passer par un expert comptable pour ne pas faire d'erreur, mais ce qui permet finalement virtuellement d'éliminer complètement vos revenus et donc de ne pas être fiscalisé pendant pour certains 20 jusqu'à 25 ans. Donc ça c'est vraiment un vrai point d'optimisation sur cette partie là et je pense notamment, excusez-moi je continue là-dessus, on voit le cas nous beaucoup sur ceux qui font du tourisme via Airbnb, où tout le monde va sur l'option micro BIC quand ils le déclarent. Donc là, c'est pareil, c'est 50% d'abattement. Donc du coup, vous payez quand même des impôts sur les 50% qui restent. Alors que si vous faites appel à un expert comptable et que vous le passez au réel, vous pouvez quasiment totalement éliminer l'imposition sur les revenus tirés de vos locations saisonnières.
La gestion locative aussi, ça permet de réduire aussi encore.
Toujours. De toute façon, toutes les charges, ça fait partie des charges déductibles, ce qu'on disait tout à l'heure, et ça, que ce soit de toute façon foncier et loueur en meublé, de toute façon, ça vient en déduction de vos revenus. Donc, on parle quand je disais frais de gestion tout à l'heure, effectivement, c'est les frais que peuvent prendre le gestionnaire, les différentes assurances, les intérêts d'emprunt que vous avez, une partie des travaux qui viennent encore une fois en déduction des revenus chaque année.
Oui, c'est intéressant parce que dans l'autre statut, du coup, les travaux, en fait, on n'en fait qu'une fois en général, enfin, une fois ou tous les 10 ans, ou voilà, on n'en fait pas tous les ans. Donc, c'est beaucoup plus intéressant.
Exactement.
Ce statut.
Et puis, vous les payez. C'est très bête comme réponse, mais de toute façon, vous les payez.
Ouais.
Et effectivement, vous avez, si on reprend le mécanisme, comme vous allez réduire votre revenu avec les travaux que vous avez payés, forcément, vous avez moins d'impôts fonciers à payer, donc vous faites une économie finalement sur les travaux que vous avez engagé. C'est pas une pure réduction que vous avez gagnée comme ça. Donc c'est ça réduit la facture finalement des travaux que vous avez pu payer.
Donc on le voit, il y a pas mal de choses à faire, hein, quel que soit le type de revenu finalement qu'on perçoit. Simplement, on voit que c'est quand même plutôt à optimiser au fil de l'eau. C'est pas un one shot, on va dire. Et c'est vrai que souvent, en fin d'année, il y a une période qu'on parle de beaucoup de défiscalisation, hein, sur le dernier trimestre de l'année. Et là, il y a beaucoup de noms de Philippe, FCPI, Sofica, Girardin, ce genre de choses qui sortent. Est-ce que ça, c'est des choses à conseiller justement pour optimiser fiscalement et préparer sa prochaine déclaration, ou attention danger?
Ou celle-là, je pense qu'on a tous un avis différent. Donc, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Vous pouvez effectivement interroger les personnes qui distribuent ou commercialisent ce genre de produits. Nous, on a plutôt une aversion au risque, en tout cas pour nos clients. Effectivement, l'histoire. Pour certains, et je dis bien pour certains, il y a des produits qui sont très bien montés, très bien ficelés. Mais si on prend la Girardin industrielle, hein, je fais partie de ceux qui en ont profité il y a très longtemps de ça. Beaucoup de requalifications, hein, c'est de la défisc one shot. De toute façon, ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. Hein, vous mettez un ticket en fin d'année, vous avez un pourcentage en fonction du produit qui du coup vous sert de réduction d'impôt. Donc ça vous permet d'augmenter le montant de la réduction d'impôt, je pense notamment au Girardin industriel.
Avec la problématique. On rappelle que le Girardin industriel, on peut avoir une réduction d'impôt qui est supérieure finalement à son investissement. Mais on n'a rien derrière.
Exactement. Voilà. Ah oui, c'est du pur one shot. Et il y a eu quelques problématiques. Donc oui, je pense que je vais me faire taper dessus pour ceux qui aujourd'hui commercialisent encore une fois ce type de produit avec certaines garanties, mais avec le risque d'une requalification. Hein. Girardin industriel, c'est généralement des entreprises et du matériel industriel qu'on pouvait retrouver dans les dom-toms, avec pour certains du matériel qui n'est jamais arrivé, bref, ce genre de choses. Donc l'État, et c'est normal, les impôts requalifient, ce qui fait que vous perdez le bénéfice de la réduction d'impôts, mais aussi ce que vous avez mis dedans et l'argent que vous avez mis dedans. Donc c'est double perte, puisque vous devez rembourser finalement le gain d'impôt et vous avez perdu l'argent que vous avez mis dedans. Et on peut parler effectivement des FIP qui encouragent aujourd'hui et ça se regarde. Et je pense que là, il faut regarder ponctuellement de quel produit il s'agit, de quelle entreprise. Donc vous allez investir dans des PME, notamment en France, avec une durée de détention déterminée. Vous bénéficiez effectivement, encore une fois, d'une réduction d'impôt, mais avec le risque. Après, encore une fois, hein, y a rien de caché. Vous avez une lettre de mission. Quand vous investissez sur ce genre de produit, vous signez une lettre de mission. Donc, vous êtes totalement au courant du risque de perdre en capital. Mais effectivement, vous pouvez vous retrouver à une sortie au bout de 7 ans, et c'est le risque à prendre, avec finalement beaucoup moins que la réduction d'impôt que vous avez gagné. Donc, à regarder. Ça se fait. Il y a plein de choses qui existent pour faire du one-shot, mais il n'y a pas de produit miracle. Il faut en mesurer tous les risques et les potentielles conséquences.
Emmanuel.
D'une manière générale, hein, pour compléter ce que disait Kurt, je pense que il faut pas être uniquement attiré par l'économie d'impôt. Il faut vraiment s'intéresser au dispositif, à ce qu'on finance, parce que quand il y a une réduction d'impôt associée, c'est en général parce qu'il faut financer, il faut aider des industries, des économies à se développer. Donc, se focaliser uniquement sur l'économie d'impôt en général, c'est une mauvaise idée. En tout cas, c'est le risque d'être déçu.
Il y a un but derrière, en fait.
Il faut comprendre ce qu'on finance. Et d'une manière générale, je suis aussi d'accord avec Kurt, il faut se faire accompagner par des spécialistes, par des gens qui comprennent, qui sont capables d'expliquer ce qui est financé et quels sont les objectifs poursuivis.
Faites-vous accompagner, je pense que c'est un peu le mot d'ordre de l'émission, un peu en général. Merci à nos invités, Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d'ERES, Société d'épargne, retraite et salariale. Et merci à Kurt Vural, directeur commercial du cabinet de gestion de patrimoine Selectium. Dans quelques instants, la rubrique « Ça vous concerne ».
Le grand rendez-vous de l'épargne, « Ça vous concerne ».
Un moment que vous adorez, nos experts sont en plateau et répondent à vos questions. On accueille notre premier expert, Thibaut, Charlotte Tamer, bonjour.
Bonjour.
Directrice conseil chez Yomoni. Et Thibaut, une première question de Jade
oui,
pour Charlotte.
Oui, une lectrice qui veut investir en bourse avec un plan d'épargne en action, le fameux PEA. Tout le monde est un petit peu au courant de ce qui se passe entre le Covid, la guerre en Ukraine. La période est un petit peu agitée. Elle se demande comment limiter le risque sur les marchés financiers, d'autant que notre lectrice Jade, c'est pas du tout une spécialiste.
Ok. Éviter le risque, qu'on appelle aussi volatilité. Le risque et la volatilité ne sont pas des choses à prendre seules. Là, on l'isole. Mais qui dit risque, qui dit volatilité, dit performance importante en face. Il ne faut pas oublier la corollaire, parce que qui aurait envie de prendre du risque ou de la volatilité pour rien ? En fait, a priori, si on est bien constitué, personne. Donc l'idée, c'est je prends du risque, oui, mais pourquoi ? Pour aller chercher de la performance. Il faut dire que là, Jade, elle prend l'enveloppe qui est, par essence, la plus exposée au marché. Puisqu'un plan d'épargne en action, comme son nom le définit, est obligatoirement investi en action et qui plus est en action européenne. Ce qui veut dire que non seulement je suis sur la classe d'actifs qui est assez, par essence, assez volatile mais assez rémunératrice, mais en plus de ça, comme je réduis le champ géographique de ces actions, puisque je me limite à l'Europe, j'augmente la volatilité du portefeuille. C'est-à-dire que si je prends le même contrat en assurance vie et que je ne mets que des actions, mais là je vais pouvoir mettre des actions européennes, américaines, de pays émergents et autres. Et donc, du fait d'avoir un spectre géographique plus large, je vais réduire la volatilité. Donc là, il faut dire à Jade quand même qu'elle part sur le PEA, plan d'épargne en action. Elle prend certes un risque certain, mais dans le but d'aller chercher de la rentabilité. Réduire le risque, j'ai envie de dire, sur le marché, c'est un peu incompatible. Il faut qu'il y ait du risque pour aller chercher de la performance. Donc, est-ce qu'on peut véritablement réduire le risque ? Non. Mais on peut vivre avec. Et donc là, il peut y avoir quelques astuces pour bien vivre son risque. La première chose qu'on recommande à Jade, c'est de bien définir son budget d'investissement, c'est-à-dire quelle somme elle va mettre sur son PEA. Et la deuxième chose qu'elle va devoir se dire, c'est que les sommes qu'on investit sur le PEA, comme il y a de la volatilité sur la durée, il va falloir du temps pour lisser cette volatilité, et donc on part sur un investissement qui est plutôt de long terme. Donc, non seulement Jade, elle doit s'assurer du montant qu'elle met, mais elle doit aussi s'assurer que le montant investi va être investi pendant 8 ans et plus. Attention, on sait que le PEA est une enveloppe qui est défiscalisée sur la partie fiscale à partir de la cinquième année. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un bon moment pour sortir. Généralement, quand on investit de l'argent sur un PEA, du fait de son exposition au risque, on sait qu'il faut 8 ans, voire un petit peu plus, pour lisser le risque et aller chercher le maximum de performance possible. Donc déjà, bien définir son budget, s'assurer que cette somme-là, elle n'en aura pas besoin pendant au moins 8 ans pour lisser le risque et donc aller chercher cette performance. Et puis ensuite, il y a quelques techniques. On parle de aujourd'hui, on sait que les PEA sont accessibles avec des ETF, donc ce qu'on appelle les trackers financiers. Et en fait, on sait aujourd'hui que grâce aux ETF, on peut déroger un peu à cette règle d'investissement uniquement européen. C'est-à-dire que quand j'ai un PEA qui est investi en ETF au lieu d'être investi en actions, en obligations ou en fonds classiques, eh bien en fait, je vais avoir des ETF qui vont reproduire des indices financiers américains, voire même émergents, mais qui vont coter sur des bourses européennes et qui, du fait, aux yeux de l'AMF, vont être éligibles au PEA. Donc aujourd'hui, on trouve des PEA qui sont investis sur les États-Unis, sur les pays émergents, et donc ça peut être une manière de diversifier le risque et donc de réduire légèrement la volatilité, même si on reste 100% en action. On trouve même des ETF, mais c'est le tout début, des ETF obligataires qui peuvent être éligibles au PEA. C'est tout ce qu'on appelle les ETF synthétiques, et donc qui peuvent permettre, engendrer une réduction de la volatilité du PEA, même si par essence, on reste quand même 100% en action. Ça va vraiment être les techniques purement objectives. Dernier petit point, pour mieux vivre la volatilité, et là, c'est pas réduire la volatilité, mais se sentir plus confortable vis-à-vis de son investissement, elle peut lisser son investissement, même si on sait que d'investir en one shot, en fait, c'est plus rentable sur la durée que d'investir par intervalles réguliers. Parfois, c'est dur de se tenir aux intervalles réguliers. C'est une nouvelle prise de décision qui est répétée sur la durée. Les gens n'arrivent pas forcément à s'y tenir. Et donc, au final, on lâche l'investissement en cours de route. Ça se passe pas toujours très bien. Donc, mais si elle se sent capable et que ça l'aide à investir, ça peut lui permettre de lisser la volatilité sur la durée. Et enfin, elle peut aussi passer par le mandat de gestion, c'est-à-dire déléguer la gestion à des professionnels pour s'éloigner de toute interaction avec son portefeuille, parce que on le sait aujourd'hui, c'est clairement démontré, une des premières sources de sous-performance d'un portefeuille, généralement, c'est l'investisseur lui-même.
Bon, pour notre lectrice qui n'est pas du tout une spécialiste, le mandat de gestion peut être indiqué, par exemple.
Je pense qu'il est tout à fait... En plus, il y a un énorme développement des mandats de gestion sur les courtiers en ligne, sur pas mal de choses aujourd'hui. Ils sont accessibles dès des montants à partir de 1000 euros. Alors qu'auparavant,
et pas trop chargés en frais.
Et pas trop chargés en frais, ouais. Notamment si elle part dans le domaine des ETF. Mais il faut qu'elle soit quand même, qu'elle soit vigilante sur tous ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, à regarder. Mais si on devait redéfinir, je dirais d'abord bien définir son... Peut-être se faire accompagner au global par rapport à un conseiller, mais bien définir son budget, bien définir que cette somme d'argent, elle n'en aurait pas besoin pendant 8 ans, opter pour une gestion déléguée où en fait, c'est quelqu'un qui va s'en occuper parce que c'est un métier à part entière, hein, de savoir sur quelle classe d'actifs, quelle thématique, etc., il faut s'investir. Et puis ensuite, elle peut aller un petit peu plus loin en cherchant un mandat de gestion investi en ETF. Et bien évidemment, avant tout investissement, et qu'importe le niveau de volatilité, bien regarder le niveau de frais qui vous sont proposés face aux services rendus pour être sûr d'améliorer la rentabilité par la suite. C'est-à-dire on prend un risque, mais derrière, on s'assure qu'on aura la rentabilité en face. Et si les frais sont trop importants, les frais, en fait, ils viennent gréver la rentabilité de l'investisseur.
Pensez aux frais, donc.
Bien sûr.
Merci Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Notre deuxième expert vient de s'installer en plateau. Bonjour Stéphane Absolu.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. Et Thibaut, nous avons une question de Stéphane.
Bah oui, ça ne s'invente
c'est
pas.
Drôle.
C'est Stéphane qui a une question pour Stéphane. Alors Stéphane, il a deux enfants d'une première union. Il s'est remarié à une femme qui est également mère d'un enfant né d'un premier mariage. Et le couple a ensuite eu deux enfants. Bon, là, il faut s'accrocher. Alors, notre lecteur se demande comment... il peut s'arranger à mettre en place une stratégie pour ne pas léser les enfants de son premier lit.
Alors c'est le cas des familles recomposées qui aujourd'hui est un cas qu'on croise fréquemment dans nos stratégies. Il faut savoir que les dernières statistiques de l'INSEE indiquaient que les familles recomposées représentent aujourd'hui 10% des ménages français. Donc les enjeux sont quand même des enjeux d'actualité et présents dans toutes les stratégies. On peut comprendre l'interrogation de Stéphane du coup, remarié, puisqu'il a quelque part deux objectifs un peu divergents. Dans un premier cas, quand même conserver un cadre de vie, un maintien de train de vie pour le conjoint survivant, et puis pour autant quand même assurer la protection de ses enfants d'une première union, qui ne sont donc pas les héritiers de son épouse, et qui, si jamais on avait une transmission de patrimoine qui se faisait en pleine propriété ou en usufruit à ce conjoint, deux cas, soit la pleine propriété, les enfants de cette première union ne verraient rien passer, soit en usufruit, on se retrouve avec une situation où on a un démembrement de propriété entre le conjoint et les beaux-enfants, ce qui n'est pas forcément simple à gérer. Alors, comme toujours, on sort la boîte à outils, on a plusieurs outils à disposition de Stéphane pour essayer de protéger ce cadre familial. Le premier, c'est d'anticiper cette transmission et donc de mettre en place une donation partage. Sauf que là, on va être dans un cas un peu particulier puisque Stéphane a des enfants de différentes unions. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle une donation partage conjonctive où, en fait, on va réunir tous les enfants de Stéphane, les enfants en commun avec son épouse actuelle et puis les enfants de sa première union. Tout le monde va participer à l'acte, son épouse, les enfants communs, les enfants d'une première union, et on va faire un partage du patrimoine de Stéphane entre tous ses enfants. Donc les biens qui vont être concernés, ce sont les biens propres de Stéphane, mais aussi les biens communs qui vont pouvoir être partagés entre tous ses enfants, du coup. Enfants communs et non communs, sachant que, bien évidemment, les enfants de cette première union ne pourront recevoir, dans le cadre de cette donation partage, que des biens de Stéphane. Ils ne pourront pas recevoir les biens de sa seconde épouse, sachant qu'on n'a aucun lien entre son épouse et ses beaux-enfants. L'avantage de ce schéma-là, c'est qu'on fait un partage aujourd'hui de son patrimoine. L'équilibre ensuite par rapport au régime matrimonial, puisque Stéphane est marié, il a peut-être des biens communs avec son épouse. L'équilibre ensuite se fait par un mécanisme de récompense qui est dû à la communauté, hein, par Stéphane, ce qui fait qu'on respecte un peu les intérêts de chacun, les intérêts du couple et puis les intérêts de protection de ses enfants d'une première union. Ça, je dirais, c'est le premier outil à disposition de Stéphane, la donation partage conjonctive. Le terme est un peu barbare, mais c'est aujourd'hui le moyen de réunir tous ces enfants de différentes unions dans une même donation partage. Et puis le deuxième outil, c'est un outil là aussi d'anticipation, c'est la mise en place de ce qu'on appelle libéralité graduelle ou résiduelle. Donc on va parler de testament graduel ou résiduel ou donation graduelle ou résiduelle. L'idée, c'est de protéger son conjoint tout en s'assurant que les intérêts de ses enfants de cette première union ne sont pas lésés. Donc on va mettre en place une transmission au profit de ce conjoint. Là, la différence entre le graduel ou le résiduel, c'est que dans le cadre d'une donation graduelle, par exemple, on va transmettre au conjoint, à charge pour lui de conserver ce qu'on lui a donné et de le transmettre aux enfants de cette première union. On a l'autre étape qui est une donation résiduelle cette fois. Là, en fait, on va donner au conjoint, on va lui laisser une totale liberté de disposer du bien. Et en fait, s'il reste quelque chose, ce résidu, quelque part, sera transmis aux enfants de la première union. L'avantage, c'est que, notamment au travers des legs, on va pouvoir mettre en place par testament un leg résiduel ou graduel au profit du conjoint. Le conjoint va recevoir une part de ce patrimoine, en pleine propriété, par exemple, pouvoir en disposer. Et à son décès, en fait, le patrimoine revient dans le giron des enfants de cette première union, ce qui fait qu'on a lésé les intérêts ni des uns ni des autres. Et fiscalement, c'est plutôt avantageux, puisque, notamment dans le cadre de succession, le conjoint aujourd'hui n'a pas de droit de succession. Et lorsqu'on va déterminer la fiscalité qui va s'appliquer au décès de ce conjoint, on va retenir en fait la donation d'origine ou le legs d'origine, c'est-à-dire le lien entre Stéphane, le défunt, et ses enfants de sa première union.
Alors, il y a peut-être une petite chose, une question qui me vient. Si le conjoint survivant s'entend pas très bien avec les enfants du premier mariage du conjoint décédé, pour le coup, la donation résiduelle, c'est peut-être un peu dangereux.
Alors, c'est là où il faut déterminer le degré de liberté qu'on veut donner à son conjoint. Il y a des familles recomposées où ça peut très très bien se passer, où on peut même envisager du démembrement de propriété et avoir un conjoint usufruitier et des beaux enfants du propriétaire, et tout se passera très bien. Après, on sait qu'il y a des situations qui peuvent soit être conflictuelles à l'origine, soit dégénérer vers des situations plus délicates. Donc là, évidemment, on évitera le démembrement de propriété, on évitera peut-être le résiduel, ou en fait, tout dépend du degré de liberté qu'on veut laisser aux uns et aux autres. Soit on veut se dire, je laisse quand même une marge de liberté très importante à mon conjoint parce qu'il y a un maintien de train de vie à assurer, et quelque part, mes enfants, je ne les déshérite pas, mais ils auront bien ce qu'il restera. Soit on se dit, non, ce patrimoine-là, une résidence secondaire par exemple, et on veut s'assurer que ce bien-là reviendra aux enfants de cette première union, là on va mettre en place une libéralité graduel, du coup, ce qui fait que le conjoint reçoit cette résidence principale, il en dispose, il en est plein propriétaire, on évite peut-être le côté démembrement de propriété qui va donner des difficultés de gestion. Donc on donne la résidence secondaire en pleine propriété au conjoint survivant, il ne peut rien en faire à part en disposer, le louer éventuellement, et puis à son décès, plutôt que de partir dans sa branche à elle, en l'occurrence dans le cas de Stéphane, il y aura ses enfants, ce bien-là revient dans le patrimoine des enfants de la première union de Stéphane, et on a bien assuré l'équilibre de la transmission comme le voulait Stéphane. Voilà, tout ça se calibre en fait, vraiment, c'est l'avantage de tous ces outils que nous donne le Code civil, c'est de pouvoir les calibrer pour répondre pleinement à l'objectif que se donnera le conjoint.
Je crois que c'est très clair, Stéphane, pour Stéphane.
C'est assez clair. Merci beaucoup, Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. On va tout de suite se connecter à Maître Nathalie Kouzigoussuas, notre dernière expert, pour la question à l'aide à distance.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Oui, Maître Kouzigoussuas, on a une question de Sonia qui vient de perdre sa mère. C'est sa maman qui avait été désignée bénéficiaire d'une assurance vie, mais qui n'a jamais accepté le bénéfice du contrat après la mort du souscripteur. Résultat, l'assureur refuse de verser le capital à notre lectrice. Celle-ci se demande si l'assureur en a le droit.
Bonjour à tous, bonjour Thibault. Alors, quelle est la difficulté à laquelle est confrontée Sonia aujourd'hui ? En fait, on s'aperçoit qu'une personne qui est dénommée le souscripteur avait souscrit un contrat d'assurance-vie et avait désigné, en cas de décès, la maman de Sonia comme bénéficiaire du capital qui pouvait rester sur ce contrat d'assurance-vie lors de son décès. Alors, le contrat d'assurance-vie a été souscrit par le souscripteur qui a pu régulièrement abonder au fur et à mesure de sa vie le règlement de prime ou alors le verser en une seule fois. Et il a désigner la maman de Sonia comme bénéficiaire de ce capital lors de son propre décès. Et aujourd'hui, Sonia est confrontée au fait que sa maman soit décédée et que l'assureur ne veuille pas lui remettre le capital alors qu'elle est l'héritière de sa maman. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut distinguer plusieurs situations. La première situation dans un contrat d'assurance vie, c'est le cas où le bénéficiaire, ici la maman de Sonia, serait décédé avant le souscripteur du contrat. Eh bien, dans ce cas-là, contrairement à une idée répandue, on dit qu'il n'y a pas de représentation au droit des assurances s'il n'a pas été prévu, c'est-à-dire que le bénéfice du contrat d'assurance vie est présumé subordonné à la survie du bénéficiaire de la clause sur celle du souscripteur. Concrètement, si rien n'a été prévu et que le bénéficiaire décède avant le souscripteur, eh bien, le capital au décès du souscripteur ne revient pas aux héritiers du bénéficiaire, mais revient aux personnes désignées en second rang. Et si rien n'a été prévu, ça revient dans la succession du souscripteur. Ici, ce n'est pas la situation où le bénéficiaire serait décédé avant le souscripteur, puisqu'il apparaît que la maman de Sonia est décédée après le souscripteur. Mais là encore, il faut distinguer deux situations. Première situation, certes, la maman de Sonia est décédée après le souscripteur, mais avant d'avoir pu accepter le bénéfice de ce contrat d'assurance vie, le bénéfice de ce capital. Alors, notons que l'acceptation, d'ailleurs, peut être tacite. C'est-à-dire qu'il aurait pu être considéré que la maman de Sonia, de son vivant, avait accepté le bénéfice de ce contrat. Alors, la jurisprudence, eh bien, admet, par exemple, que l'acceptation peut être tacite, c'est-à-dire pas un courrier envoyé à l'assureur en disant « oui, j'accepte le bénéfice de ce contrat », mais peut résulter d'éléments qui laissent censer croire que la personne a accepté le bénéfice de cette clause bénéficiaire. Notons par exemple qu'il a été jugé que le fait que le bénéficiaire fasse des démarches auprès de l'administration fiscale pour avoir le certificat qui lui permette de débloquer des capitaux ne vaut pas présomption d'acceptation tacite. Donc là, on ne sait pas dans les faits si la maman de Sonia est décédée après qu'elle ait accepté le bénéfice de ce contrat. Mais la situation est différente selon qu'elle l'ait accepté ou qu'elle l'ait pas accepté. Si elle l'a accepté de son vivant, le bénéfice de son contrat après le décès de ce souscripteur, mais que l'assureur n'ait pas eu le temps de débloquer les capitaux à son profit. Eh bien, dans ce cas-là, on considère que le bénéfice de ce contrat, ce capital, est d'ores et déjà dans la succession de la maman de Sonia. Et donc, Sonia, quand elle va recevoir les capitaux de l'assureur, eh bien, elle est censée les recevoir de sa maman et donc va devoir s'acquitter éventuellement de droits de succession. Puisqu'il s'agit de fonds qui appartiennent à la succession de sa maman. Toute différente est la situation selon laquelle la mère de Sonia serait certes décédée après le souscripteur, mais avant d'avoir accepté le bénéfice de ce contrat d'assurance vie. Eh bien, dans ces cas-là, les héritiers de la maman, dont Sonia, ou elle-même si elle est seule héritière, eh ben, ont la capacité d'accepter au lieu et place de sa maman le bénéfice de ce capital. Et dans ce cas-là, s'ils acceptent le bénéfice de ce capital, celui-ci va leur être versé par l'assureur comme s'il l'avait versé à la maman de Sonia, c'est-à-dire selon les règles de l'assurance vie. Et si les primes ont été versées par le souscripteur avant qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, bah le régime fiscal est particulièrement favorable, puisque dans ce cas-là, Sonia aura une exonération sur le montant du capital reçu de 152 500 euros. Donc, il faut donc savoir bien en tête que Sonia est tout à fait légitime à récupérer ses capitaux d'assurance vie qui étaient normalement destinés à sa maman, puisque, a priori, sa maman est décédée après le souscripteur. Donc, tout dépend en revanche au regard du traitement fiscal sur le point de savoir si la maman, lorsqu'elle est décédée, avait eu le temps d'accepter ou non le bénéfice de ce contrat d'assurance vie. Si elle avait accepté le bénéfice de ce contrat d'assurance vie, Sonia certes recevra ce capital, mais avec des droits de succession éventuellement. Si en revanche la maman n'avait pas eu le temps d'accepter le bénéfice de ce capital, bah Sonia le recevra avec la fiscalité favorable de l'assurance vie. Un enseignement à retenir de cette clause bénéficiaire, c'est que vous pouvez toujours, en tant que souscripteur, faire des clauses relatives à la clause bénéficiaire sur mesure, c'est-à-dire en prévoyant l'hypothèse d'un prédécès du bénéficiaire, savoir si ça reviendra à ses descendants ou pas, prévoir s'il y a des bénéficiaires de second rang. La clause bénéficiaire peut être très étoffée et il ne faut pas voir aller au-delà, parfois aller au-delà des clauses standards proposées par les assurances. Autre point à savoir, c'est que lorsqu'une personne décède, ses ayants droit ou ses héritiers peuvent toujours interroger le fichier AGIRA, A-G-I-R-A, fichier mis en place par les assureurs pour vérifier s'ils ne sont pas eux-mêmes bénéficiaires à la suite du décès de leur auteur d'un contrat d'assurance vie. Et enfin, pour les contrats d'assurance vie qui sont en déshérence, c'est-à-dire pour lesquels les assureurs n'ont pas retrouvé les bénéficiaires de la clause, eh bien, il y a le site Cyclade, C-I-C-L-A-D-E, qui est mis en place par la Caisse des dépôts et consignations et qui permet de retrouver les bénéficiaires des contrats d'assurance vie en déshérence.
Merci Nathalie Cousy-Goussuas, notaire à Paris. Merci à nos experts aussi d'être venus sur le plateau. Merci à vous Thibault Lamy pour avoir préparé cette émission. Merci à nos réalisateurs Jason Pinero et Nicolas Sandanassami. Cette émission se termine. On se retrouve le mois prochain évidemment pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.